L'aime. L'émission. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour à tous et bienvenue dans le LEM Sport sur Radio Évasion, le rendez-vous mensuel dédié au sport. Une émission aujourd'hui et l'équipe est au complet. Bonjour Fred, bonjour Hugo.
Salut tout le monde.
Alors une émission un peu différente, pas d'invité aujourd'hui, c'est la dernière de l'année et à cette occasion, on adopte un format un peu différent où il sera question de sportifs bretons et d'actualités sportives bretonnes. Le LEM Sport aujourd'hui tentera de vous faire découvrir le sport breton avec un regard différent. Alors, heureusement ou malheureusement, si vous n'aimez pas le foot breton est un peu à la fête aujourd'hui dans l'actualité. Il y a un Brest-Lorient que l'on attend beaucoup, évidemment, et on en reparlera un petit peu plus tard au cours de ce LEM Sport. Mais sans plus attendre, il est l'heure de retrouver Hugo pour l'actu des évadés du sport.
Heureux de vous retrouver pour le dernier flash des évadés du sport de l'année civile 2023. Au sommaire, en ce 20 décembre, donc Pierre-Yves vous l'a dit, le derby bouillant entre Brest et Lorient en Ligue 1 de football, un point. Sur la dynamique des Béliers de Quimper qui trônent seuls en tête de la National 1 masculine de basket. Et enfin, nous reviendrons sur le creux traversé par le rugby club de Vannes, malgré tout leader de la Pro D2. Le football et la Ligue 1, donc pour débuter ce flash, avec ce soir, le choc à Francis Leblé entre le Stade Brestois 29 et le FC Lorient. Les Tizèf affichent une forme resplendissante avec une magnifique 5e place au classement. Les partenaires du flamboyant Romain Del Castillo dans l'entrejeu restent actuellement sur 4 matchs sans défaite, dont une victoire historique à Nantes au Stade de la Beaujoire sur le score de 2-0. Les buts de Magnetti et de Mounier permettent logiquement à Chardonnay et sa bande de rêver d'autre chose qu'un simple maintien. Quant à lui, l'adversaire morbihanais est en totale déconfiture. Les Merlus sont 17e de Ligue 1, synonyme pour le moment de relégation en Ligue 2. Sans fil conducteur, dans la philosophie de jeu ni efficacité dans les deux surfaces, Régis Lebris et sa bande, auteurs de 16 compositions d'équipes différentes en 16 matchs, voient l'étau se resserrer autour d'elle alors que les pleins pouvoirs sportifs avaient été confiés à l'entraîneur. Choc au sommet pour conclure l'année civile et la première moitié de saison, ce soir à 21h à Francis Leblé. Parlons désormais basket. Les Béliers de Quimper, certes avec des lacunes dans la régularité, sont tout de même seuls leaders de National 1 masculine. La victoire 81-67 à domicile face à Poissy a été le pavillon témoin des qualités et des défauts de l'UJAP cette année pour le moment. Porté offensivement par un grand collectif, les Finistériens se sont mis à l'abri après une gestion délicate à l'arrière lors du deuxième carton. Le coach quimpérois souligne l'inconstance de ses hommes, une rigueur cohérente avec les ambitions fortes pour retrouver la Pro B au printemps prochain. Rendez-vous face à Tours pour les Béliers, ce sera vendredi. Place au rugby. Le RC Vannes, après un début de saison tonitruant en Pro D2, vient d'enchaîner 4 défaites sur les 5 derniers matchs. Les hommes de Jean-Noël Spitzer restent malgré tout là aussi leaders, les Bretons vont bien et le rêve d'une première montée dans l'élite est plus que jamais légitime. Même si la défaite à Brive a enlisé les Vannetais dans une mauvaise spirale et a malgré tout rappelé que les grandes ambitions du RCV ne doivent pas leur faire quitter les pieds sur terre. La contre-performance 13-12 avec une défaite dans les dernières minutes a été le fruit de nombreuses défaites individuelle, notamment en mêlée. Pour se rattraper, Vannes recevra Angoulême début janvier. Il s'agira de repartir du bon pied. Et on se retrouve tout de suite en direct avec Pierre-Yves et avec Fred.
Et oui, merci Hugo pour ce flash des évadés du sport en direct. Alors dans le LEM Sport, ce midi, on va revenir sur une année de sport avec Fred et Hugo. Alors on a eu plein d'invités tout au long de l'année. Et pour cette émission, on s'était dit que ce serait peut-être pas mal de mettre en lumière des gens ou des clubs qu'on n'a peut-être pas mis en avant. Et bien on va peut-être commencer par les tops et flops de cette année. Alors commençons positif avec les tops. Alors Hugo, peut-être ?
Oui, toujours souligner le positif, même en ces temps difficiles dans bien des domaines. Et pour cela, on peut parler de Valentin Madouas, le coureur brestois de la formation Groupama FDJ, auteur d'une saison fantastique et notamment d'un Tour de France remarqué où il aura joué plus qu'un rôle coéquipier. Il aura su également se mettre en lumière. On voit en lui de belles qualités de baroudeur, dont Fred parlerait sans doute mieux que moi, lui, l'expert de la bicyclette. Mais autant dire que Valentin Madouas est en train de prendre une épaisseur qu'on n'attendait pas de lui nécessairement. On sait que David Gaudu, homonyme breton, est également un coureur dont on attendait beaucoup. Et Valentin Madouas, en comparaison à lui, a souvent été cantonné à une idée de lieutenant. Aujourd'hui, il semble s'affirmer et montrer de belles qualités.
Oui, et puis pour compléter, j'ai envie de dire que du coup, moi, je m'étais posé la question de savoir si David Gaudu était dans mes flops ou pas. Alors, j'en mettrai un d'abord, c'est Warren Barguil, dont la constance et les changements perpétuels d'équipe, moi, m'interrogent un petit peu. Et c'est vrai que David Gaudu, on pourrait considérer que c'est un échec, sa 9e place au Tour de France cette année. Et puis finalement, quand on regarde de plus près, bah, il se trouve que je pense que David Gaudu, il a finalement fait le tour avec des performances similaires à ce que... voilà, on regarde ses courbes de puissance, en fait, elles sont identiques.
Meilleures que celles de l'an passé. Meilleures que celles d'entre
elles. Par contre, je pense que la concurrence, elle, est arrivée à des points de performance qui surprennent, qui interrogent. Et c'est vrai que le dernier Tour de France a encore été une fois l'occasion d'avoir des débats sur... des performances qui paraissent très surprenantes.
Ça interpelle en effet Fred, mais juste rapidement, on peut peut-être aussi se demander pourquoi dans ce cas-là, si David Gaudu est inférieur aux autres intrinsèquement, pourquoi il n'essaye pas d'être un petit peu plus audacieux, même si on sait que le vélo devient également un sport collectif, donc il y a des logiques d'équipe à respecter, mais parfois on regrette un peu de ne pas le voir plus à l'offensive, je dirais.
C'est fou de se dire que le cyclisme finistérien domine le cyclisme français.
C'est extraordinaire. Je pense qu'on ne se rend pas compte de la manière dont le sport breton est hégémonique dans bien des domaines en France, et on a quand même de très beaux représentants dans tous les domaines.
Bah, je crois que le cyclisme breton, c'est celui qui est le mieux représenté dans le peloton pro actuellement. C'est la région qui a le plus de coureurs pro.
C'est quand même assez fou.
Ouais, on aura d'ailleurs aussi, alors moi je voulais aussi faire peut-être un petit focus sur deux espoirs. Eddy Luitouze, qui est un très bon rouleur donc pour les contre-la-montre, c'est un jeune de 20 ans qui vient de passer en équipe Pro Tour à la Groupama FDJ, donc on peut espérer qu'il fasse des petits résultats. Et puis surtout Ewan Costiu, qui encore l'année dernière était sur la ronde finistérienne et qui est passé pro, et qui lui donc est l'an dernier qui a fait une très bonne saison en pro là, et on peut espérer que chez Arkea cette année il puisse se révéler, peut-être faire des petites victoires, ce serait bien.
Peut-être viendront-ils s'ajouter à la liste des espoirs comme Lenny Martinez ou Romain Grégoire, qui ne sont pas bretons mais qui sont des espoirs pour le cyclisme français.
Tout à fait.
Alors du côté des tops, on a bien compris que le vélo était bien représenté, mais il y a plein d'autres sports aussi, j'imagine, où les clubs ou les sportifs finistériens s'en sont bien sortis cette année.
Oui, on peut parler du Stade Brestois qui est 5e de Ligue 1. On essaiera d'y revenir dans cette émission. C'est une performance assez exceptionnelle.
Alors on va se garder 5 minutes à un moment donné sur Brest-Lorient.
Ils vont conclure la saison, la première moitié de saison, pardon, dans une position très 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 confortable et inattendue. On peut parler du RC Van. On en discutait en ouverture dans le Flash, qui est leader de Pro D2 et qui peut peut-être envisager de monter en top 14, un club breton en top 14, ce serait tout simplement extraordinaire. On peut parler du grand nombre de joueuses du BBH, Brest-Bretagne Handball, qui sont devenues championnes du monde une nouvelle fois dimanche. Il y a vraiment énormément de satisfaction. Il y a les JO 2024 qui se préparent, que ce soit olympiques ou paralympiques à Paris, qui sont vraiment porteurs d'espoir pour des athlètes bretons et bretonnes. Franchement, ça donne envie d'y être et de voir ce qui va se dérouler pour tout ça. C'est porteur d'espoir.
Alors, dans les choses positives, on peut peut-être faire un petit arrêt sur l'US Concarneau. Concarneau qui a remporté le championnat de national et qui s'est hissé en Ligue 2. Concarneau fait pas mauvaise figure en Ligue 2. Voilà. Il y a eu une victoire récente contre Guingamp. Alors, à domicile ou à l'extérieur, on ne sait pas. Parce que le problème de Concarneau, c'est que Concarneau ne peut pas jouer à domicile. Est-ce que c'est quelque chose que vous suivez avec attention,
oui,
Concarneau ?
Parce que l'USC a un parcours remarquable, un entraîneur extrêmement audacieux, extrêmement compétent, en la personne de Stéphane Lemignan, qui a brillé par le passé, notamment du côté de Vannes, avec une finale de Coupe de la Ligue.
Contre Bordeaux, perdu 4-0.
Oui, perdu sur un score assez lourd, effectivement. Et à l'époque, il avait stabilisé Vannes en Ligue 2, ce qui était quand même une performance, là aussi. Et il reproduit un petit peu les mêmes schémas de résultats et de philosophie de jeu avec l'US Concarneau, qui, tu l'as dit, Pierre-Yves, était champion national en étant le plus petit budget du championnat. Aujourd'hui, bien sûr, ils le sont également à l'étage supérieur. Et ils ont conclu hier, malgré une défaite 3-0 contre Grenoble, la première moitié du championnat à la 13e place. On rappelle que la Ligue 2 a encore 20 équipes dans son championnat et 4 descentes. Ça veut dire qu'ils ne sont pas à l'abri mathématiquement, bien sûr, mais à la fois dans le contenu de leur match et dans les résultats qu'ils étaient capables d'aller chercher, avec des styles différents, des joueurs différents. Concarneau peut se mettre peut-être dans une situation de se maintenir en en Ligue 2, n'en déplaise à Vincent Labrune et aux élites footballistiques qui en ont un petit peu assez visiblement de ses poils à gratter, mais ça rappelle que l'argent n'achète pas tout.
Mais oui, parce qu'en dans ce monde footballistique là où les millions règnent en maître, quand même, c'est vrai qu'on peut mettre en avant ce genre de projet là qui font la part belle aux valeurs du sport pour le coup, parce que c'est souvent un peu galvaudé comme mot, mais pour le coup, là on est vraiment sur des petits budgets, des équipes qui font équipe justement et puis qui font peut-être un petit peu le pendant de clubs comme le PSG où effectivement là on a des stars qui s'empilent, mais l'équipe elle n'est pas très existante, on la voit pas bien quoi.
C'est ça, et puis même sans aller dans des comparaisons extrêmes avec le Paris Saint-Germain qui est un club état comme d'autres. Concarneau était quand même dans un championnat, le national, où il y a beaucoup de clubs qui déposent le bilan, il y a des soucis financiers. Et quand on sait qu'Concarneau était dernier budget en termes de puissance économique, être dans la situation où ils sont aujourd'hui, avec les péripéties qu'on connaît, c'est simplement un miracle. Ça démontre la bonne gestion d'un football qui dépérit un petit peu. On est quand même sur une entreprise un peu familiale. C'est plus un modèle qu'on connaît. On pense notamment à ce qui est en train de se passer avec Lorient, le système de multipropriété. C'est vraiment des visions du football qui sont différentes.
Il faut rappeler que Lorient est une propriété en fait, d'un club anglais de première ligue, le Bournemouth.
Propriété, c'est-à-dire que Bill Foley, qui est président du club de Bournemouth et également propriétaire de ce même club, détient désormais 40% des parts du FC Lorient. Loïc Ferry a agrandi son capital, ce qui fait naître bien des discussions et bien des débats autour de l'avenir du FC Lorient, puisque Bill Foley n'a pas caché ses idées à ce sujet. Pour lui, Lorient est juste un endroit où il s'agit de placer, acheter, revendre des joueurs. C'est une succursale, ce que Loïc Ferry réfute de son côté. Il y a vraiment un double discours à ce niveau. Les Merlus en ont pâti lors du dernier mercato d'hiver, puisque Dango Ouattara, qui était un des maîtres à jouer la saison passée, a été vendu pour 30 millions d'euros à Bournemouth, prix absolument ahurissant compte tenu de l'expérience du joueur. Il y a même des rumeurs selon lesquelles il n'aurait pas eu le temps de préparer sa valise convenablement. Lui avait dit dans l'Ouest de France en mai dernier qu'il était parti pour jouer toute la saison à Lorient et que ça s'est vraiment fait de façon très rapide, donc ça pose des questions. On rappelle aussi que Romain Fèvre, leader technique de Lorient aujourd'hui, a été acheté par Bournemouth pour pouvoir être prêté cette saison à Lorient. Ce sont des mécanismes qui, au niveau moral aujourd'hui, interrogent en tant que supporter et inquiètent si jamais Lorient est amené à sous-performer comme c'est le cas actuellement.
Rappelons quand même qu'on regardait avant, en préparant l'émission, qu'on parle de Brest qui est 5e de Ligue 1. L'année dernière, Lorient était à la même place, à la même époque, et le mercato est venu tout ruiner. Donc,
oui. On avait perdu, j'ai honte parce que je suis supporter, je m'en cache pas ici en tout cas, les deux joueurs les plus prolifiques de l'équipe et les joueurs qui étaient les plus qualitatifs, donc Dango Ouattara et puis Terem Moffi, serial buteur qui est parti du côté de l'OGC Nice pour 30 millions d'euros là aussi. Et il faut rajouter à ça qu'Enzo Lefebvre, son contrat n'a pas été prolongé dans ce même temps et c'est pour ça qu'il est parti au Stade Rennais pour à peu près la même somme. Donc Lorient a perdu toute sa colonne vertébrale, mais on y reviendra peut-être.
Ouais, on a fait une petite parenthèse lorientaise, mais tout ça pour dire qu'à quelques kilomètres de Lorient, aux antipodes footballistiques, il y a le modèle de Concarneau. Pour l'instant, Concarneau joue sur trois stades différents pour ses matchs à domicile. Vous pouvez aller les voir du côté de Brest, Lorient ou Guingamp. Voilà.
C'est ça. Ils ont besoin de soutien parce que les stades sont un petit peu clairsemés malheureusement.
Alors oui, par exemple, c'est des petites jauges quoi. Là, exemple, hier, Concarneau recevait Grenoble et a joué devant 2000 spectateurs.
Oui, devant un moustoir tristement vide.
Voilà, et pourtant c'est pas loin, à quelques kilomètres.
On aurait dit que le Covid revenait.
Alors on va passer du côté des flops pour cette année. On va commencer avec toi Fred, des petites déceptions de 2023.
En fait, si on continue dans le foot, Rennes, moi qui étais sensiblement prévu pour jouer dans le haut du tableau, voilà, aujourd'hui on voit qu'ils sont pas du tout en forme. Donc ça en faisait un des flops. Et puis après, moi j'ai pas voulu être trop méchant cette année, donc j'ai déjà parlé de David Gaudu, de Juan Barguil. J'ai pas trop de flops moi cette année, j'ai envie d'être positif.
D'accord.
C'est pas vraiment un flop, si je peux me permettre d'anticiper ta relance, Pierre-Yves, mais quand même, j'aimerais dire que la descente des Béliers de Quimper en National 1, ça a quand même été une surprise, entre guillemets, même si ça a été...
Le basket professionnel quitte le Finistère, pour le coup.
C'est ça, et en fait, ça a été une lente dégringolade au classement la saison dernière. Sur l'année civile 2023, quand ils étaient en Pro B, c'est-à-dire la saison passée, il y a eu très très peu de victoires, et puis petit à petit, ils se sont enlisés dans le classement. Et c'est ainsi que l'aventure pour Laurent Foirest, qui aurait été quand même exceptionnelle, il faut lui rendre hommage, pendant près de 7-8 ans, s'est arrêtée avec... Bon, bien sûr, c'est un risque pour tous les entraîneurs dans tous les sports collectifs, mais l'aventure se termine vraiment mal par rapport à ce qu'elle avait apporté au club. Aujourd'hui, ils sont en construction, on en parlait dans le flash, ils sont leaders, ils ont les cartes en main pour remonter, mais c'est le genre de performance, en fait, d'irrégularité qui montre que dans le sport collectif, tu n'es vraiment pas à l'abri de descendre, de dégringoler, et tout est possible, en fait. Faut garder la régularité, la base de ce qui fait ton succès.
Alors, je vais faire une petite précision. Le basket professionnel n'a pas quitté le Finistère, parce qu'il y a les filles de Landerneau.
De Landerneau, oui, bien sûr.
Qui se première échelon et qui se débrouillent très bien aussi, oui. Pour voir des super matchs
elles,
aussi du
elles
côté
font
de
même que plus que se débrouiller très bien. Je crois qu'elles sont plutôt dans le haut du tableau.
Exactement. Alors, côté flop aussi, on aurait pu parler de l'organisation des Jeux Olympiques.
Oui.
Malgré tout, les Jeux auront lieu à Paris, mais pas dans le Finistère.
Oui. Enfin, en tout cas, en ce qui concerne des possibilités, notamment d'avoir certaines épreuves. Il y a de la frustration de ne pas avoir des épreuves de surf en Bretagne. Il y avait
De voile non plus.
En fait, il y avait quand même des infrastructures, il me semble, existantes qui auraient pu permettre aux Bretons et aux Bretonnes d'applaudir des athlètes venus de tous les horizons. Ce ne sera pas le cas, malheureusement. Mais ça veut peut-être dire que nous n'étions finalement pas si près que cela à accueillir les choses. Il faut quand même faire un... coucou à nos amis du skatepark de Plougastel-Laoulas qui vont accueillir des délégations.
Probablement à suivre. En tout cas, il est déjà ouvert ce nouveau skatepark, oui. Et on en reparlera sans doute dans le LEM Sport. Alors, pour conclure cette partie rétrospective, on va passer à autre chose. On va passer aux espoirs de 2024, oui. Des choses qui pourraient se profiler à l'horizon. On va commencer avec toi, Hugo. Alors, oui. Quels sont tes espoirs pour cette année 2024?
Moi, j'ai bien envie de voir Cléopâtre Darleux aux Jeux Olympiques, parce que vous n'êtes pas sans savoir...
La
gardienne du Brest-Bretagne Handball, parce que vous n'êtes pas sans savoir, Pierre-Yves et Fred, et les auditrices, les auditeurs de Radio Évasion, que l'équipe de France de handball féminine a été championne du monde pour la troisième fois de son histoire dimanche dernier, mais sans Cléopâtre Darleux, gardienne historique des Bleus, actuellement blessée depuis 8 à 10 mois, il me semble, une blessure assez grave qu'elle est en train de traverser avec de la rééducation, de la réathlétisation. Elle envisage de revenir sur les parquets pour les JO, mais la question qu'on se pose, y arrivera-t-elle? Parce que sa compère, sa concurrente, et son amie Laura Gloser a été auteur de performances tout à fait stratosphériques durant l'ensemble du mondial, et peut-être que le binôme qu'elle forme avec sa gardienne suppléante Sako va être difficile à bouger malgré le statut de Cléopâtre Darleux. En tout cas, on souhaite à la Brestoise de pouvoir porter les bleus au JO.
Et toi, Fred?
Alors moi, je vais faire un petit focus pour les JO. Là, on a trois espoirs bretons avec Nicolas Gestin, Camille Prigent et Titouan Castric. Alors le dernier, Titouan Castric, c'est 18 ans, c'est un prodige du kayak. Et on a des gros espoirs et peut-être ça va être une des révélations des JO. Donc trois bretons à mettre en lumière. Et puis alors après, il y avait aussi Dany Civil. Alors je le connaissais pas, hein, je vous avoue, mais il est licencié à Hennebon et c'est une discipline qu'on connaît peu. C'est le breaking qui fera son apparition aux JO et qui va donc représenter un club breton, en l'occurrence Hennebon, et donc à suivre peut-être cette année en 2020.
Et sachant en plus que probablement pour le breaking ce sera un épiphénomène aux JO.
Oui, parce qu'a priori, l'année prochaine, le JO d'après
Los Angeles, c'est pas prévu que ce
eux,
soit
ils ont leur sport aussi à eux qui veulent mettre en évidence.
Il y aura une médaille historique à gagner. Et puis, comme on parle des JO, il est aussi bon de parler des Jeux Paralympiques. Et puis, du côté du Finistère, on a un bel espoir, c'est Catel Alençon.
Oui,
est-ce qu'elle arrivera à se sélectionner pour...
À se qualifier, on sait que... Elle a traversé aussi des périodes peut-être un peu plus difficiles que lors des dernières années sur cette année civile 2023. Donc, est-ce qu'elle va réussir à avoir le programme de compétition qu'elle souhaite? Est-ce que, au niveau des qualifications dans sa catégorie, ça va le faire? Il y a beaucoup de points d'interrogation pour elle, mais elle a déjà montré qu'elle était capable de se hisser à ce niveau-là, qu'elle a eu des performances régulières et fiables. On l'a eu plusieurs fois sur Radio Évasion, on l'aura peut-être avant les Jeux, on l'espère. Donc, on lui souhaite bonne chance et on y croit.
Et côté espoir, on est obligé de faire un arrêt puisque c'est l'actualité et puis on y croit aussi. C'est une petite musique qui commence à monter parmi les observateurs du foot français. Si une 7e place par exemple était qualificative pour la Coupe d'Europe, je veux bien entendu parler du Stade Brestois en Ligue 1 qui est actuellement 5e. Alors est-ce que c'est un espoir raisonnable ou pas de voir Brest se qualifier pour une Coupe d'Europe?
Oui. Moi, je suis sûr que oui, on va être
C'est le supporter qui parle. Peut-être qu'il serait intéressant de poser la question à un supporter lorientais qui a vécu une situation quasi similaire l'année dernière au même moment de l'année.
Exactement. Situation mathématiquement similaire. En effet, quand on a 28 points après 16 journées, il est de bon ton d'espérer autre chose que le maintien, même autre chose qu'un top 10. On sait qu'avec la réduction du nombre de clubs, les changements de formule en Coupe d'Europe, le 7e sera peut-être qualifié en UEFA Conference League. Ligue, si jamais le vainqueur de la Coupe de France est déjà européen. Aujourd'hui, en tant que supporter brestois, si je vous dis à vous, est-ce que vous serez déçu si Brest termine en dessous de la 7e place? Probablement que vous répondrez oui, parce que le début de saison a été stratosphérique. Brest ne devrait pas perdre ses meilleurs joueurs au mercato d'hiver. On sent une ossature, on sent aussi une grande maîtrise, une solidité, une solidarité, une grande qualité technique avec Romain Del Castillo. La victoire à Nantes, on a été vraiment le pavillon témoin, donc tout est possible pour les Brestois. Maintenant, c'est l'idée de continuer à être dans cette régularité de performance, de garder cette humilité aussi avec Brendan Chardonnay, avec des cadres qui en sont les garants véritables.
Ouais, Chardonnay, joueur formé au club, et puis présent dans l'effectif professionnel depuis
2012-2013. Sa première, c'était au Parc, lors de la 38e journée de cette
saison. Oui, pour la retraite de David Beckham,
exactement.
Et dans mes coups de cœur, justement, Les Melou aussi, en milieu de terrain, qui fait une saison fabuleuse et qui a des stats, d'ailleurs, assez impressionnantes. Et du coup, il fait partie de ceux qui récupèrent le plus de ballons. Enfin, c'est impressionnant.
Extraordinaire parcours aussi pour ce joueur.
Autre coup de cœur qu'on a peut-être un peu survolé, peut-être même espoir de cette année, en tout cas pour le rugby français, pour le rugby breton, c'est le RC Van qui pourrait monter en top 14.
Van a de grandes ambitions, Van a un budget décuplé par rapport aux saisons précédentes, Van a un entraîneur solidement installé, une méthode, une philosophie de jeu, et Van récolte les fruits depuis quelques années avec une grande régularité dans le haut du tableau. Van est aujourd'hui leader des top 14 malgré un petit creux qu'on évoquait en début d'émission, mais les Vantais peuvent rêver au top 14 et imaginer un club breton en top 14, ça fait quand même rêver. RC Van, Stade Toulousain, c'est quand même... Ça a de l'allure.
Ce serait beau.
Ça a de l'allure.
On a le Garec aussi, donc...
Du côté du Racing 92.
Ouais, c'est ça, qui est demi-mêlée et qui donc est au port de l'équipe de France. Il devait jouer le tournoi des destinations, je crois, mais il s'est blessé, un truc comme ça. Donc on peut espérer que
qu'un Breton soit en équipe A.
Ouais, ce serait vraiment bien, ouais.
Avec un renouvellement sans doute après l'échec du Mondial 2023.
Eh bien voilà, on a fait le tour un peu des espoirs. Il nous reste quelques instants pour évoquer l'actualité chaude et brûlante.
C'est
Brest-Lorient. Alors. On disait qu'il y a un an, Lorient était à la même place, c'était cinquième avec presque autant de points. Et cette année, c'est Brest qui est cinquième. Alors avant un derby comme celui-ci, où les dynamiques sont contraires, qu'espérer, qu'attendre de ce match assez rapidement, Hugo et Fred ?
Alors, côté Lorientais, ça va être simple. On veut un état d'esprit de conquérant. On veut une équipe qui propose un football efficace et offensif. Et on veut plus de solidarité pour espérer un résultat contre une grande équipe de cette saison.
Bah on peut, et moi du côté, alors je vais prendre le parti supporter brestois, on peut espérer encore d'avoir autant d'efficacité, de jouer propre, efficace et d'être solidaire, et je pense qu'on va foutre une tannée à Lorient, je crois que c'est clair, on peut le dire.
Doucement, tout de même.
Oui, voilà.
Bon, on ne tire pas sur l'ambulance.
Ouais, et puis un principe de base, quand on est supporter brestois, il faut rester humble, hein, parce que des fois il y a des surprises dans le vent contraire.
Tout est possible.
Tout est possible, surtout avec Brest.
Et on souhaite un joyeux anniversaire à Kylian Mbappé. Est-ce que Fred veut nous faire une imitation de Kylian Mbappé ?
Non, pas du tout.
Non.
Je l'ai mieux fait tout à l'heure. Mais non, en fait.
Bah, tu me parles pas d'âge.
C'était pas dans le conducteur. Eh bien, merci à vous. Il est temps de clore ce Lem Sport.
Bonne fête. Bonne fête à tous. Joyeux Noël.
Joyeux Noël.
Tout à fait.
Et on se retrouve l'année prochaine. Hein.
Mais oui, et là, vous avez cassé ma fin de conducteur parce que ça doit être précis. Parce qu'il y a Pierre-Louis qu'on remercie aussi qui nous permet d'être en direct sur Radio Évasion. Et bien voilà.
Merci Pierre-Louis.
Il est temps de clore cette émission en Lemsport en direct et au complet pour terminer 2023. C'était parfait. Et nous vous donnons rendez-vous à partir de janvier 2024 pour une nouvelle émission. À bientôt.
À bientôt.
Salut.
Lem. L'émission. Mission sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.